bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les parlementaires britanniques accentuent le risque d'une sortie du Royaume-Uni sans accord de l'Union européenne. Ils désavouent leur Premier ministre Theresa May. Ils ont voté hier contre un amendement qui l'autorise à renégocier le Brexit avec Bruxelles. Nous irons à Londres dans un instant. Nous ferons aussi un point sur la réunion organisée à Sotchi entre la Russie, la Turquie et l'Iran à propos de la Syrie. Force est de constater que les trois puissances ne sont pas d'accord sur la marche à suivre. Dans cette édition, nous nous demanderons aussi s'il est possible de poser une caméra dans une chambre d'un EHPAD pour espionner des salariés. C'est comme cela qu'une famille s'est rendue compte de la maltraitance envers leur mère, résidente dans une maison de retraite. Et puis une grève des étudiants pour le climat. Tous les vendredis depuis des semaines, elle a lieu en Australie, en Belgique ou encore aux Pays-Bas. Les jeunes Français les rejoignent aujourd'hui. Le Brexit approche dans 6 semaines maintenant et la première ministre britannique est un peu plus fragilisée. Theresa May a essuyé hier une nouvelle défaite au Parlement de Londres. Les députés britanniques ont rejeté la motion de stratégie de renégociation du Brexit avec Bruxelles. Le gouvernement assure qu'il continuera à travailler pour obtenir un accord remanié, mais l'hypothèse d'un Brexit dur se rapproche, Antoine Gignot.
Le mois dernier, Theresa May se targuait d'avoir réuni derrière elle une majorité substantielle et durable. Il aura fallu moins de 2 semaines pour que cette unité de façade se disloque. En votant contre la Première ministre, les députés eurosceptiques font passer un message essentiel. Ils sont prêts à entraîner le Royaume-Uni vers une sortie de l'Union européenne sans aucun accord. Certains, parce qu'ils considèrent que ce scénario catastrophe peut permettre d'arracher in extremis quelques concessions à Bruxelles. D'autres, parce qu'ils sont fermement persuadés que l'avenir du pays repose sur les échanges commerciaux avec l'Asie et les États-Unis. Dans les deux cas, ils ont sciemment savonné la planche déjà glissante sur laquelle marche la chef du gouvernement. Une dizaine de ministres menacent de démissionner s'ils n'obtiennent pas un report du Brexit. Difficile d'imaginer qu'une Theresa May affaiblie, acculée, privée de majorité, puisse désormais continuer à discuter sereinement avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, ou avec Michel Barnier. Le négociateur de l'Union européenne a d'ailleurs déjà prévu de rencontrer la semaine prochaine un autre interlocuteur. Il va, selon le Guardian, s'entretenir avec Jeremy Corbyn, le patron des travaillistes. Mais si la droite est en déconfiture, la gauche n'a pas non plus de véritable solution pour le Brexit. 41 députés viennent de voter contre l'avis de leur chef de file et demandent une prolongation des négociations. Plusieurs d'entre eux menacent aussi de quitter le parti si Corbyn ne se prononce pas clairement pour l'organisation d'un deuxième référendum.
Un compromis budgétaire a finalement été obtenu aux États-Unis entre démocrates et républicains pour éviter une nouvelle paralysie budgétaire dans le pays. Donald Trump doit maintenant promulguer ce texte. Il annonce par ailleurs l'urgence nationale pour pouvoir financer le mur qu'il a promis à la frontière mexicaine. Cette procédure exceptionnelle autorise le président à contourner le Congrès pour mobiliser des fonds. Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Hassan Rouhani, ils ont conjointement reconnu hier que le retrait militaire américain de Syrie pouvait être une étape importante vers la pacification du pays. Réunis à Sotchi sur les bords de la mer Noire, ils entendent trouver des solutions pour résoudre la question syrienne, mais ils ont surtout affiché de réelles divergences de points de vue, Claude Bruyot.
Quand Vladimir Poutine affirme que les attaques terroristes dans la région d'Idlib ne peuvent plus rester impunies, Recep Erdogan, lui, s'empresse alors d'ajouter qu'il faut éviter une nouvelle crise humanitaire près de la frontière sud de la Turquie. Les blocages ne sont jamais très loin, le numéro 1 turc campe sur ses positions concernant les milices kurdes présentes à Manbij, au nord-est de la Syrie. Tant qu'elles existeront, l'intégrité du territoire de la Turquie ne sera pas assurée, affirme Erdogan. Il s'entend alors répondre par le président iranien Hassan Rouhani que les Kurdes font partie intégrante du peuple syrien. Placé dans la situation de médiateur, Vladimir Poutine a fait inscrire dans les conclusions du sommet que la stabilité précisément de cette région, qui se prépare au retrait américain, devra prendre en compte les intérêts turcs notamment, mais que la gestion ultime de ce territoire-là doit appartenir à Damas. Au final, les trois présidents se quittent en ayant chacun réaffirmé leur position. Pour les rapprochements de points de vue, il faudra attendre éventuellement Ankara et le prochain sommet tripartite au printemps.
Il a finalement reconnu avoir giflé, insulté une dame de 98 ans dont il avait la responsabilité. Un aide-soignant d'une maison de retraite d'Arcueil en région parisienne sera jugé cet après-midi en comparution immédiate. La famille de la résidente avait des soupçons depuis quelque temps. La direction de l'établissement n'ayant pas donné suite aux alertes, les enfants ont décidé d'installer une caméra dans la chambre de leur mère. Ils ont filmé donc l'impensable, des violences. Ils ont déposé plainte il y a une semaine. Mais la méthode interroge tout de même certains professionnels, Mathilde Dehimi.
Il ne blâme pas la famille, condamne fermement les maltraitances de l'aide-soignant, mais s'interroge sur la méthode employée, car filmer dans la chambre d'un résident n'est pas anodin pour Jean-Pierre Roulin, qui dirige trois EHPAD publics dans l'Essonne.
Un tel dispositif de surveillance enfreint un certain nombre de règles, et notamment le droit à l'image pour toutes les personnes qui sont susceptibles de pénétrer dans la chambre, les professionnels qui n'ont pas à être filmés à leur insu. C'est quand même quelque chose qui pourrait devenir préoccupant si ce genre de pratique se généralisait.
Se pose la question de considérer la chambre comme un lieu privatif mis à disposition par l'EHPAD qui dispose de son propre règlement ou comme un domicile, Thierry Amouroux du syndicat national professionnel infirmier.
Le pensionnaire d'un EHPAD est résident dans une chambre, donc c'est comme si c'était son domicile personnel. La grande majorité des soignants font de leur mieux, ils sont porteurs de valeurs, donc ça ne pose aucun problème. Il fallait avoir une preuve, ils l'ont eu de cette manière.
La CNIL rappelle qu'à domicile, toute personne y travaillant, la nounou ou du personnel médical doit être informée de la présence d'une caméra. En cas de suspicion de maltraitance dans un EHPAD, la famille peut aussi informer le conseil départemental et l'autorité régionale de santé.
Une nouvelle figure du mouvement des Gilets jaunes sera au tribunal correctionnel de Paris ce matin. Éric Drouet, dont l'interpellation le 2 janvier avait indigné à gauche comme à droite. Éric Drouet est jugé ce matin pour organisation de manifestations sans déclaration préalable. Il avait été arrêté près des Champs-Élysées à Paris au début de l'année. Après leurs homologues européens, des Belges, Allemands, Hollandais notamment, les jeunes Français se lancent dans la bataille du climat aujourd'hui. Collégiens, lycéens, étudiants lancent une grève du climat. Ils vont se réunir notamment en début d'après-midi devant le ministère de la Transition écologique. Ils ont voté l'idée d'une action simple, celui de la désobéissance civile. C'est une nouveauté pour ce mouvement. Voilà ce qu'explique Antoine Soulas, étudiant à l'école normale supérieure, à l'origine de la manifestation du jour.
En général, on l'associe à la non-violence. On s'est mis d'accord là-dessus en AG au sein du mouvement. Il y a un type de désobéissance très stratégique en général, c'est le blocage ou l'occupation qui permet, par exemple, d'arrêter des chantiers néfastes pour l'environnement ou des entreprises écocides. On peut bloquer des sièges d'entreprise, on peut stopper des chantiers comme l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou la forêt de Romainville au nord de Paris. Et ça permet à la fois de rassembler et d'empêcher un projet qui est néfaste pour l'environnement. C'est vrai que c'est notre marque de fabrique ici en France, en tout cas à Paris, d'avoir cette idée de désobéissance. Les Belges en parlent un peu dans leur texte d'appel. Mais ils en ont pas fait. Pour l'instant, ça se résume à des marches. Les autres pays également. Nous, on a voulu ça parce que vous connaissez peut-être le slogan « Les manifs, c'est sympa, mais ça suffira pas ». On voit que depuis septembre, on a des dizaines de milliers de gens dans les rues à chaque fois qu'il y a une marche pour le climat. Et on a un silence total de la part du gouvernement. On sent bien qu'il faut passer à d'autres actions.
Antoine Soulas, il répondait à Maxime Fayol. Eux manifestaient pour défendre leur quartier. Certains habitants de Long Island City, à New York, ont obtenu gain de cause. Le géant Amazon ne va pas y installer son nouveau siège. Il proposait 25 000 emplois à la clé pour en échange des milliards de dollars en avantages fiscaux. Ce n'était pas du goût de plusieurs élus et d'une partie de la population. Amazon renonce donc, Loïc Loury.
Le bras de fer n'aura duré que quelques semaines. À Long Island City, beaucoup s'inquiétaient de voir les prix flamber avec l'arrivée du géant. Sean tient un salon de coiffure à quelques dizaines de mètres de ce qui devait être le nouveau siège d'Amazon.
C'est vraiment fou, ces accords sans concertation ne marchent pas avec les New-Yorkais. On fait du bruit, on sait ce qui est bon pour le quartier, on vit ici, on travaille et on progresse ensemble. Alors on a dit à Amazon, venez discuter, et à la place, ils sont partis, donc bon.
Mais les habitants du quartier sont loin d'être unanimes, de nombreux commerçants attendait avec impatience cette nouvelle clientèle. Harry, notamment patron d'une épicerie, en a les larmes aux yeux.
Je ne me sens pas bien, c'est une mauvaise nouvelle pour mon commerce. Avec Amazon, le business aurait été bon. Tous ces gens n'ont pas compris qu'Amazon était une bonne nouvelle pour le développement du quartier.
Avec le retrait du géant, le spectre de la gentrification portant ne s'envole pas. Le phénomène est déjà très avancé et d'autres entreprises pourraient jeter leur dévolu sur Long Island City. C'est ce que dit Anna, une étudiante.
Je pense vraiment que c'est possible. Je viens de lire un article selon lequel cela pourrait être un message envoyé aux autres grandes compagnies. Mais non, je crois que c'est une vraie menace. Et c'est déjà arrivé dans d'autres quartiers. J'ai été témoin de cette gentrification. C'est insensé.
Et Amazon, dans l'immédiat, ne cherchera pas de nouvel emplacement.
Un soleil généreux est prévu sur la France métropolitaine ce vendredi sous des températures douces. Ce matin, il fait 4 degrés à Lille, 5 à Paris, 6 à Lyon, 12 degrés à Nice.